RFI, grand reportage.
À la fin du mois d'août de 2005, l'ouragan Katrina touchait le golfe du Mexique. La capitale de la Louisiane comptait 1 300 000 habitants. 80% ont été évacués. Mais ce ne sont pas les vents intenables qui vont causer le plus de dégâts. Ce sont bien les inondations quand les digues ont cédé. On estime que les deux tiers de la Nouvelle-Orléans ont été submergés, causant la mort de près de 3000 personnes. 10 ans après, Anne-Marie Capomaccio, notre correspondante, s'est rendue en Louisiane au mois de février. Reportage.
On était samedi soir, je crois, on était chez nous. C'était mon anniversaire, en fait.
Ashley et Eric, 10 ans après Katrina.
On est parti, on est allé à Houston parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Normalement, pour aller à Houston, de chez mes parents, ça prend environ 5 heures. Ce jour-là, ça nous a pris 16 heures. C'était un peu comme l'apocalypse parce qu'on est arrêté sur l'autoroute. Il y avait une ligne de voiture jusqu'à l'horizon. On ne bougeait pas. J'avais un gâteau d'anniversaire dans la voiture et tout le, comment dire, the icing sur le gâteau s'est tombé. Quand on est arrivé à Houston, ma mère a remis tout, puis on le mangeait le lendemain. Ça, c'était mon 19e anniversaire.
Mes filles étaient encore petites, elles avaient 6 et 3 ans. Je prépare des bagages pour 3 jours en disant « bon allez, on part en week-end ». Et voilà, on en profite pour aller se balader parce que de toute façon, on ne peut pas rester là à se ronger les ongles. Hein. On n'est jamais vraiment prêt, mais quel choix on a. J'ai fait dans ma tête l'inventaire « bon alors, ce que j'ai perdu, qu'est-ce que je vais vraiment regretter ?» En général, c'est plutôt les photos de famille. Le reste, c'est des choses matérielles, donc on s'en remet. Puis au bout d'un moment, il faut se décrocher de ça parce que c'est pas possible, sinon on est aliéné.
Je suis partie avec ma mère 5 jours avant, mais mon père voulait rester. Il voulait surveiller la maison et tout ça, et être là au cas où il y avait un problème à régler. Mais 2 jours avant, on a su que c'était beaucoup plus grave. Tout le monde était censé partir, c'était obligé par la loi. Mais il y a des gens qui n'ont pas de moyens de partir.
D'abord, nous n'étions pas sûrs de pouvoir évacuer car nous n'avions pas de voiture. On tournait en rond. Puis un ami de New York m'a appelé et m'a dit que je pouvais utiliser son véhicule. Donc nous avons récupéré sa voiture et finalement à 15h, le dimanche, ma fille m'a dit « on lève le camp ». Ma fille, son mari, le chien et le chat et moi, nous sommes partis à 3h. Pour faire 200 km, nous avons mis 9h. Un de nos amis sur la route nous a accueillis pour une nuit, puis chez un autre, nous sommes restés 2 semaines et on a fini par arriver à New York.
Ça a duré plus d'un mois dans cette soupe, dans la chaleur, les moustiques, tous les gens qui avaient leur frigo, qui avaient été abandonnés avec toutes les saletés dedans, les verres, je vous dis pas, mais c'était horrible. L'odeur en général, tout était gris, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de vert, pas de rouge, pas d'oiseau d'ailleurs, on n'entendait pas un bruit. C'était vraiment bizarre. Et puis en plus, ma fille a eu son bébé la nuit de Katrina, parce que, bon, vous savez, les émotions, ça fait des choses. Hein.
Ashley, Gisèle, Marie, Nancy, Isabelle, 10 ans après l'ouragan, on se souvient des derniers instants avant la catastrophe. Et la question revient en permanence, où étais-tu au moment de Katrina? Comme l'explique Isabelle Cossard, à la Nouvelle-Orléans, c'est ainsi qu'on fait connaissance. On se présente en racontant son ouragan, son exode devant Katrina.
C'est toujours la première chose. Et alors toi, qu'est-ce que t'as fait quand c'était Katrina? Même quand on connaît pas quelqu'un, on dit alors toi, t'étais où? Comment tu l'as vécu? C'est une cicatrice sur la mémoire d'une communauté. Et la cicatrice, tout le monde la porte, plus ou moins bien, plus ou moins vaillamment, plus ou moins cicatrisée, mais elle est là, hein, y a rien à faire. Hein.
Les scientifiques expliquent très bien ce qui s'est passé. L'ouragan Katrina est un phénomène naturel. La côte de la Louisiane est balayée depuis des siècles chaque été par des vents, des tempêtes, des cyclones, des tornades. Et la côte est une protection qui affaiblit le souffle. Une côte et des bayous qui se renouvelaient grâce aux sédiments du Mississippi. Mais la domestication du fleuve, les canaux creusés pour la navigation, les forages ont brisé ce rythme. L'eau salée pénètre à l'intérieur des terres, la corrosion ronge les marais la terre recule. C'est comme le dit le scientifique louisianais Thomas Michaud, le cycle naturel qui est perturbé, accéléré par les humains.
Toutes les digues pour contenir le Mississippi sont, de l'avis du plus grand nombre, l'un des facteurs les plus importants dans la réduction de l'apport de sédiments dans les marais. Cela a pour conséquence la détérioration de nos bayous. Cela n'est pas la version universellement admise, mais c'est ce que pense la majorité. Et tout cela, ce sont des facteurs introduits par les humains.
Tout le monde n'était pas dans l'ignorance. Les Indiens qui vivent dans les bayous ont alerté, et certains scientifiques aussi. Ce n'est pas comme si les humains ne savaient pas, dit Richard Campanella. Ce géographe enseigne à l'université de Tulane. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la Nouvelle-Orléans et a observé au fil des ans l'accumulation des facteurs qui ont conduit à la catastrophe.
Pour avoir étudié la détérioration de l'environnement du delta, j'ai toujours su que quelque chose comme Katrina allait arriver. Nous avions les conditions environnementales et une population socialement vulnérable, des facteurs parfaitement conjugués pour une catastrophe. Et c'est ce qui est arrivé.
Katrina a touché la côte de la Nouvelle-Orléans et les conséquences ont été ressenties au bout du bayou, dans la paroisse de Terrebonne, où vivent les Indiens Houma. Dans le bayou, nous avons rencontré Loïs Selinas. Nous allons entendre son histoire dans un instant. À la Nouvelle-Orléans, c'est Isabelle Cossard qui nous a guidés. Cette Française installée en Louisiane depuis une trentaine d'années a plusieurs cordes à son arc. Isabelle est à la tête d'une agence de tourisme et fait de l'agriculture biologique dans ses vergers, près de la Nouvelle-Orléans.
Alors, je vous ai apporté des choses. Évidemment, ça fait 10 ans que je m'en sers, elles sont un petit peu vieilles. C'est les cartes que j'ai fait juste après. Je les fais à la main avec l'écran de couleur de ma petite fille parce que il n'y a personne qui avait ça, qui montre où l'inondation a commencé. Je vous ai mis là par où Katrina est passée. Ça a deux fois touché la terre. D'abord, l'impact ici sur l'embouchure du fleuve. Et puis après, juste à la limite entre l'état du Mississippi et l'état de la Louisiane. Donc, 27 août 2005, ça a commencé, 11 morts en Floride. Le 28, on commence l'évacuation de la Nouvelle-Orléans. Le 29 août, Bush commence à déclarer le désastre, donc ce qui permet de débloquer des choses, mais pas assez, évidemment, et beaucoup trop tard, et pas bien fait. 80% de la ville a été inondée, à peu près 3000 morts. Mais ça, on n'y pense pas. On ne se rend pas compte qu'il y a eu tant de morts que ça. C'est venu par le lac, mais c'est venu par l'arrière. C'est venu comme une hémorragie interne qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Vraiment, d'une manière méchante, mais sournoise. On ne s'en doutait pas. Après, on pensait que c'était fini, que ça ne venait pas. Puis c'est arrivé après. Alors, vous voyez la vulnérabilité de la ville. La Nouvelle-Orléans, c'est un endroit dingue pour avoir fait une ville. Il faut que ça soit un jeune Français de 18 ans pour l'avoir fait. Trouver un endroit comme ça pour faire une ville, mais c'est fou. Nous sommes entourés d'eau qui nous surplombe de plus d'un mètre. On a eu 180 000 maisons sinistrées, mais fichues, il fallait démolir. Il en reste aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, à peu près 65 000, même pas vidées. Vous imaginez 10 ans après. Ils sont partis, plutôt ils ne sont pas revenus. C'est des gens qui n'ont pas pu faire marcher leur police d'assurance parce que beaucoup de gens, personnes d'un certain âge en général, ne payaient plus leur assurance inondation. Parce que c'est une chose qui est juste demandée par les banques quand on a une hypothèque. Puis il y a beaucoup d'endroits où ça n'avait jamais inondé ici avant. Ils disaient toujours ça. On n'a jamais inondé ici avant, j'habite ici depuis 60 ans. Pourquoi est-ce que j'allais acheter une assurance inondation? Donc, quand vous avez juste l'assurance normale sur votre maison et pas une assurance spécifique pour rising waters, donc l'eau qui monte, votre assurance ne paye rien. Alors là, nous sommes à l'est de la ville. On voit très bien en passant sur ce pont le Mr. Go, Mississippi, River, Gulf, Outlet. C'était une idée des gens qui avaient des intérêts dans le port de la Nouvelle-Orléans, qui voulaient que les gros navires ne doivent pas négocier tous les méandres du Mississippi et passer 7 heures à remonter depuis l'embouchure jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans. Donc, ils avaient inventé une idée horrible du point de vue écologique, un chenal pour que les bateaux arrivent beaucoup plus vite en rentrant par le golfe du Mexique, le lac Pontchartrain. Le problème, c'est que c'était un appel au viol pour les ouragans. Le raz-de-marée qui accompagne souvent ces ouragans pouvait rentrer tellement plus vite. Ils ont enfin accepté de le fermer. Ça a un an. Donc pendant 9 ans, ça a continué à faire de plus en plus d'eau salée qui remonte, d'érosion. Vous voyez ce qu'on a ? De l'eau. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas de protection.
De la Nouvelle-Orléans à la paroisse de Terrebonne, il n'y a qu'une centaine de kilomètres à parcourir. On arrive dans les bayous. Loïs appartient à la nation Houma, une nation indienne qui occupe ces terres depuis des millénaires. Elle opère depuis 35 ans, seule dans la cuisine de son restaurant. Cheani a été créée par la maman de Loïs dans les années 50. Et c'est Cheani, en compagnie de Beau Dupré, son petit-fils, dans la salle à manger qui surplombe les marais, que Loïs nous reçoit.
Quand j'ai repris ce restaurant, au début, j'avais de la terre derrière. Et maintenant, tout a été emporté. Tout est parti dans l'eau. Je m'en aperçois depuis 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça, parce que je suis là depuis 35 ans. Mais ma mère a construit ce restaurant en 1955. Et tout ce que vous voyez là, c'était de la terre. Il n'y a aucune protection. Je ne comprends pas pourquoi la paroisse de Terrebonne ne construit pas de murs pour protéger les terres. Cela a été fait dans d'autres paroisses. Mais ici, si vous voulez que ce soit fait, eh bien, vous devez le faire vous-même. Quand j'étais enfant, nous n'entendions jamais parler d'ouragan. Nous avions des tempêtes et ce n'était pas violent comme aujourd'hui. Tout le monde était ensemble. Nous passions la nuit à écouter le vent dans les arbres et le lendemain matin, chacun rentrait chez soi. Aujourd'hui, c'est destructeur. Ça a détruit tout. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que le gouvernement exproprie tout le monde. Au lieu de prendre des mesures pour essayer de protéger les gens contre l'érosion, eh ben, ils se contentent de déplacer les gens. Beaucoup de gens ont accepté de partir. Ils vont au gouvernement et ils partent. Les jeunes, ils ne restent pas ici. Et dès qu'ils sont en âge de partir ou qu'ils ont fini l'école, ils déménagent. Il n'y a plus que les vieilles personnes ici, comme moi et quelques familles. Dans 50 ans, il n'y aura plus grand monde pour vivre ici. Les gens qui vivaient ici, ils ne seront plus là.
Isabelle et Loïs, deux femmes, deux vies marquées par la catastrophe naturelle qui a bouleversé leur existence. Mais est-ce que Katrina a servi de leçon ? Les avis sont partagés. Pour Beau Dupré, la solution a été le départ vers la ville, avec une vraie tristesse lorsqu'il pense à la génération de sa grand-mère.
Tout le monde parle de l'érosion côtière ici. Nous savons que c'est un gros problème, que ce soit pour notre mode de vie ou pour la terre sur laquelle nous vivons. Mais de là à faire quelque chose de tangible, nous ne voyons rien. On se moque de nous. Pourquoi continuez-vous de vivre dans une zone dont vous savez parfaitement qu'elle va disparaître dans les années à venir ? Pour la génération de ma grand-mère, c'est un abandon. Si on se met à leur place, dans les dernières années, on ne les a pas vraiment aidés. Et maintenant qu'on commence à les aider, c'est trop peu et trop tard. Il n'y a plus grand-chose à protéger. Mais pour les gens d'ici, c'est très important. C'est notre mode de vie, c'est notre histoire, c'est la terre où nous vivons.
Le professeur Richard Campanella estime quant à lui que les choses vont dans la bonne direction pour l'instant. Des décisions de reconstruction, de réhabilitation ont été prises, mais tout ceci n'est qu'à moyen terme, ce qui laisse peu de place à l'optimisme pour les générations futures.
Je suis optimiste dans le sens où je pense qu'effectivement, nous pourrons continuer de vivre ici au 21e siècle. Je ne suis pas aussi sûr de moi si nous parlons du 22e siècle. Nous devons reconstruire les bayous de la côte à un rythme très soutenu. Je pense que cela implique que des zones devront être vidées de leur population pour que nous puissions vraiment travailler à la restauration de la côte. Et je ne suis pas sûr que cela soit politiquement possible. Donc je suis prudemment optimiste pour une ou deux générations à venir, mais moins pour la suite.
Isabelle Cossard, au contraire, préfère regarder la vie d'un point de vue plus optimiste. Une vie de bataille qu'il faut continuer de mener sans relâche pour préserver l'avenir de la Nouvelle-Orléans et de ses habitants, même si certains, après Katrina, ne sont jamais revenus.
La population de la Nouvelle-Orléans est maintenant revenue à celle d'avant Katrina, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est une population qui a plus d'éducation, beaucoup plus consciente de l'environnement. Ce sont des gens qui sont venus avec l'esprit de pioneer, de vouloir reconstruire. Et je vous dirais que trois de mes petits-enfants sont dans une école pilote gratuite qui est uniquement des jeunes qui sont venus après Katrina, de gens, mais vraiment avec le cœur dans leur mission, qui voulaient aider la Nouvelle-Orléans. Et notre système d'éducation publique qui était lamentable avant Katrina est maintenant vraiment pilote. Et ça, il faut le dire, c'est grâce à Katrina, en un sens.
Grand reportage en Louisiane, 10 ans après Katrina, Anne-Marie Capomaccio, réalisation Eva Moschinski. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio.
Et on se quitte comme chaque jour en musique avec aujourd'hui la chanteuse Indy Zara qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs avec Cabo Verde, titre extrait de son dernier album Homeland. Pour plus d'informations, nous vous invitons à retrouver toutes les actualités musicales sur notre site internet rfimusique.com.
Mémoire d'un continent.